Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Yael Mellul, ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres, Juliette Briens, journaliste, un incorrect, et Thierry Moreau, journaliste média. Des menus anti-inflation à 5€. Vous les avez peut-être vus passer chez McDo, Quick ou encore Burger King. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce une prime à la malbouffe? Vous nous appelez au 32-16 à 14h30. Les notaires vous répondent, comme tous les vendredis. Et puis à 14h40, les immanquables d'Alfred Orange. On parlera de quoi, notamment, Alfred?
On parlera d'Apple, le géant américain qui se met enfin au recyclage. Et puis on parlera aussi du succès des traditions taurines, les courses camarguaises qui connaissent un succès fou.
RMC Estelle Midi.
Le menu du jour, menu anti-inflation proposé en ce moment par les grandes enseignes de la restauration rapide. Alfred, entre McDo, Quick ou Burger King, tous s'y sont mis et c'est la guerre des 5 euros.
Oui, en moins d'un an, toutes ces enseignes s'y sont mises avec à chaque fois la même formule. Un ou deux petits sandwichs, une petite portion de frites, une boisson et parfois même un dessert pour à chaque fois un prix compris entre 4,95 € et 5,95 €. Imbattable. Une offensive d'ampleur pour regagner le cœur d'une clientèle plombée par l'inflation, parce que le risque pour ces enseignes, c'est de voir leurs clients les plus modestes, qui sont souvent les plus nombreux, déserter définitivement leur table. Et cette formule semble marcher. Burger King a d'ailleurs fait un premier retour sur son menu à 5€. D'après les responsables de l'enseigne, elle rencontre un fort succès.
Bon, ça m'aurait étonné qu'il dise l'inverse. Menu anti-inflation à 5€ chez McDo, Quick ou Burger King. Bonne ou mauvaise idée, prime à la malbouffe. Vous nous appelez au 32-16. Juliette, est-ce que tu es cliente de ce type de restauration, de restaurant?
De temps en temps.
De temps en temps.
Est-ce que c'est rarement.
Est-ce que c'est une bonne chose, ces menus à 5€?
Bah oui, vous savez, je me mets dans la peau d'une entreprise. Enfin, bonne ou mauvaise idée, pour eux, c'est une très bonne idée. Effectivement, ce qui est marrant avec McDonald's et les autres, mais... Voilà, je prends McDonald's en exemple. C'est que ça a été vraiment un marqueur de l'inflation et des années qui passent. Qu'on se rappelle, il y a certains produits, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on payait avant.
Mais aujourd'hui, ça a pris un sacré coup. Hein,
voilà, McDonald's, on se rappelle dans notre enfance, en fait, combien coûtaient les menus McDonald's, etc. Et comment ils montent au fur et à mesure. Et là, encore plus avec l'inflation. Enfin, bonne idée, oui. Moi, je vous dis, c'est du côté de l'entreprise. Évidemment, c'est une très bonne idée. Ça va cartonner s'ils peuvent se le permettre. Voilà, moi, ça m'énerve pas, en fait. Je vais pas dire aux entreprises quoi faire, qu'est-ce qu'il faut pas qu'elles fassent, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent. Voilà, on n'est pas chez les bolcheviks, quoi. Ils sont là pour faire de l'argent, McDo, hein, comme tout le monde. Hein.
Thierry Moreau.
Je pense que c'est une mauvaise réponse à une vraie question. La vraie question, c'est comment les Français doivent se nourrir 3 fois par jour et manger un repas normal 3 fois par jour. Et la réponse qui est apportée par ces géants de la malbouffe, parce que c'est quand même de la malbouffe, parce que tu dis il y a pas de mal. Si, parce qu'il y a des conséquences en maladie cardiovasculaire.
Bah on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a alors? On intervient, on leur dit de pas le faire.
Non, juste je termine. C'est pas être bolchevique que de dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se nourrirait essentiellement avec du fast-food va avoir plus tard. Va avoir un coût pour la société beaucoup plus grave parce qu'il aura des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Donc je ne dis pas qu'il faut interdire, je dis simplement qu'il faudrait qu'il y ait une autre réponse que simplement laisser aux géants de la malbouffe le fait de faire des menus à 5€, parce qu'eux, ils sont dans une logique très simple. Hein. Ils veulent gagner des clients, conserver des clients, et ils proposent quelque chose en rapport quantité-prix qui est imbattable. En rapport qualité-prix, c'est autre chose. Mais en rapport quantité-prix, c'est imbattable.
C'est sûr qu'il n'y avait peu d'autres restaurants qui aujourd'hui
se permettent. C'est impossible. Donc, comment faire?
Mais bonne ou mauvaise idée? Bonne ou mauvaise idée pour qui? De la part de McDonald's et de ces marques-là? Moi, je dis oui.
Ah oui, le consommateur.
Après, pour le citoyen consommateur, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra taxer les gens qui proposent de la malbouffe.
Ah, c'est bon. Mais on n'est pas des bolcheviks, mais on va taxer. Mais je connais.
Toi qui es soucié,
parce que tu n'es pas d'accord.
Je vais terminer ma phrase. Juliette, je vais terminer ma phrase.
Juste,
je termine ma phrase. Aujourd'hui, 1€ investi via cette taxe sur la malbouffe, c'est autant d'euros économisés, toi qui es soucieuse de l'argent public, dans 5 ou 10 ans, parce qu'il faudra traiter ces maladies cardiovasculaires, ces diabètes, ces addictions au sucre.
Ouais,
c'est un problème de santé majeur.
Juliette.
C'est toujours pareil, on va s'immiscer dans le privé de ces entreprises, qui sont des entreprises qui sont légitimes, qui ont le droit de faire de l'argent, qui ont le droit de vendre de la malbouffe peut-être, mais c'est leur droit, c'est leur fonds de commerce, et ils n'ont pas à subir l'intervention de quiconque, et surtout pas de l'État avec quelconque taxe. Si vous ne voulez pas que vos enfants aillent à McDo, et ben ne les emmenez pas à McDo, élevez-les correctement,
manger
des fruits et des légumes, c'est tout.
Dans la grande distribution, on taxe aujourd'hui les produits ultra sucrés, par exemple.
Bah oui, mais on devrait
pas. Une mauvaise chose.
Oui, voilà.
Ah, c'est clair.
Ah bah c'est très clair. Moi je suis contre tout ça. Je suis aussi contre
la libertarienne.
Bien sûr, je le suis. Oui.
Le problème, c'est que d'un côté on a des énormes groupes qui ont anticipé une diminution de la fréquentation de leur site, avec un rapport quantité-prix et pas qualité-prix. Quantité-prix absolument imbattable. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté on a par exemple, le chariot test qui est fait par la Voie du Nord depuis 2008, qui atteint un record absolu de 150 euros pour 45 produits. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des géants de la malbouffe qui ont anticipé, enfin, qui essayent de combler une inflation qui est absolument exceptionnelle. Et d'un autre côté, on a des gros groupes dans l'industrie alimentaire qui ont rien fait, en fait, qui laissent l'inflation
courir.
Se pourrir. Donc, quel est le choix aujourd'hui qu'ont des familles et des ménages qui n'ont pas les moyens pour manger? Parce que manger correctement aujourd'hui, ça a un coût
complètement
énorme, que certains ne peuvent pas assumer. Eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez McDo, ils vont aller chez Burger King, parce que 5 euros, ça reste abordable, à la main, j'ai envie de dire, dans le porte-monnaie. Enfin, aujourd'hui, on peut sortir peut-être 5 euros par jour, mais avec des conséquences pour la santé qui sont absolument, mais catastrophiques.
Menu anti-inflation à 5 euros chez Quick, Burger King ou McDo, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est une prime, un appel à la malbouffe? Vous nous appelez au 3216 et j'ai Alexandre qui nous rejoint, c'est ça Alexandre?
Oui, bonjour.
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 Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis les Hauts-de-Seine?
Oui, exactement.
On est dans quel coin des Hauts-de-Seine?
On est à Boulogne-Billancourt et je suis franchisé Burger King, j'ai deux restaurants. Voilà.
D'accord, vous avez deux restaurants Burger King?
Exactement.
Ok, donc vous faites ces fameux menus?
Oui, on fait les fameux menus, mais en fait, je voudrais répondre à Thierry Moreau, que j'écoutais attentivement.
Je vous écoute.
Il faut déjà prendre en compte que nous sommes restaurateurs. En fait, on est un lieu de vie pour le plaisir de nos clients. C'est-à-dire que c'est un choix de venir chez nous plutôt que d'aller manger à la maison ou d'aller dans un autre restaurant. C'est une sortie, c'est une activité pour les gens. Donc effectivement, ce menu à 5 euros permet de toucher des gens qui ont un budget plus limité. Donc, chose de terrible de vouloir...
Parlez bien devant votre téléphone.
Vous m'entendez mieux?
Oui, là c'est mieux. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est une sortie pour des gens qui ont des budgets plus limités. C'est la possibilité de se retrouver avec des amis, d'échanger et de manger quand même un menu complet. Alors après, le terme malbouffe, je trouve qu'il est un peu difficile parce que si vous mangez chez vous des frites et quelque chose de gras, vous êtes aussi sur la malbouffe. Nous, on a quand même un sourcing, en fait, dû et grâce à nos clients qui demandent de plus en plus de traçabilité, de produits français, etc. Donc, en fait, l'évolution de ces grands groupes, et ça fonctionne, j'imagine, avec McDonald's et Quick aussi, est un sourcing de produits français, d'amélioration de qualité. On travaille des produits veggie aussi.
Après, Alexandre, si je puis me permettre, un coca, même s'il est produit en France, ça reste un coca.
Oui, mais vous avez...
On sent l'argumentaire, quand même.
Vous avez le choix de boire de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, si vous voulez aussi.
Oui, oui.
Par exemple, depuis quelques années, on n'a plus de bière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alcool chez Burger King, en France. Vous avez le choix de manger un sandwich dans lequel il va y avoir des tomates qui sont coupées le matin, en fait, par des gens chez nous, qui coupent les tomates, qui tranchent les oignons.
C'est pas des tomates de saison.
Mais en fait, c'est des tomates qui vont venir de la communauté européenne. Vous avez de la salade qui est coupée aussi par nos soins le matin. Donc c'est plutôt pas mal fait et beaucoup mieux que d'autres endroits où vous allez avoir des gens qui vont utiliser des produits surgelés ou avec une hygiène en cuisine.
Bien sûr, vous pourrez toujours avoir de la malbouffe. Vous pourrez toujours avoir de la malbouffe à domicile. Le seul problème, c'est que là, vous êtes imbattable, comme on le disait tout à l'heure, en termes de quantité prix. Donc on peut pas lutter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un café qui proposerait un sandwich jambon beurre à un prix défiant toute concurrence, c'est compliqué. Et puis je suis désolé. Ok, c'est un lieu de vie. Ok, c'est un lieu où on se retrouve entre copains, mais c'est pas un restaurant. Moi,
mais
je suis désolé.
En fait, c'est ça. Vous voulez pas que les pauvres aient des sorties.
Mais pas du tout.
Les pauvres, en fait, les pauvres, ils ont. Ils peuvent même pas aller à McDo. Les pauvres, en fait, ils restent à la maison quand il y a de l'inflation. Vous voulez pas qu'ils aillent à McDo. Voilà. Ils peuvent pas sortir. Mais ils vont aller où alors, les pauvres?
Le nom est erroné.
C'est vrai.
Alexandre.
En fait, les clients commandent. Vont s'asseoir, il y a un service à table, vous pouvez avoir des tables hautes, conviviales, vous avez des tables de deux, vous avez des tables où vous pouvez être 7-8, on va vous servir votre plateau à table, on peut vous débarrasser, en fait, si c'est un restaurant. Et alors, pour répondre à la question, bien sûr que sur un menu à 5 euros de ces grands groupes-là, la marge, elle est extrêmement limitée, et si c'était l'intégralité du flux sur des menus à 5 euros, ce serait compliqué.
Vous rattrapez ailleurs.
Ça rentre dans une offre complémentaire, c'est-à-dire que vous allez avoir dans une journée... moi, j'ai deux restaurants, j'en ai un qui a un gîte. Les gens travaillent durement et certains vont prendre des menus peut-être à 12 ou 13 euros, beaucoup plus copieux parce qu'ils ont travaillé physiquement très difficile. Enfin, ils ont eu un travail difficile. À Vitry, j'ai à l'inverse beaucoup d'étudiants, des gens qui vont venir manger et que je vois, je vous assure, chaque midi, compter les pièces jaunes pour arriver à 4,90 ou 5. C'est quelque chose d'important.
On ne pas ça.
Et donc, si vous ne leur donnez pas à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent du pain chez eux, ils achètent du jambon en supermarché qui va être catastrophique et un beurre moyen et ils se font leur sandwich. Je trouve que c'est quand même une réponse au problème de crise qui est plutôt pas mal. Voilà.
Ça, c'est la position d'Alexandre qui s'entend, Thierry, forcément. Merci Alexandre d'avoir été avec nous, Alexandre qui nous appelait depuis les Hauts-de-Seine, donc franchisé de deux restaurants, restauration rapide. Nadia Ziane nous rejoint. Bonjour Nadia Ziane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes directrice du département consommation de Famille Rurale.
Oui, c'est ça.
Bon, ces menus anti-inflation à 5 euros chez McDo, Quick, Burger King, vous en pensez quoi?
Quand c'est ponctuel, nous, vous savez, à la famille rurale, on ne dit pas qu'il y a de mauvais aliments. On dit, pour notre santé, le plan national nutrition santé nous dit qu'il est impératif de consommer suffisamment de fruits, de légumes, de légumineuses. Et il est évident qu'en termes de récurrence, si on laisse penser au consommateur qu'elle est s'alimenter tous les jours par cette nourriture-là, effectivement, comme le disait l'un de vos chroniqueurs, il y aura des conséquences, y compris en termes de coût social pour nous plus tard. Aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros qu'on dépense chaque année parce qu'on s'alimente mal. Et s'agissant de lancer, nous, ce qui nous gêne surtout finalement dans cette campagne, c'est de la présenter comme une campagne anti-inflation. Imaginez pour une famille de 4 personnes, ça fait 20 euros le repas. À 20 euros le repas, nous, on l'a chiffré, hein, pour s'alimenter conformément au PNNS, le Plan National Nutrition Santé, c'est-à-dire manger au moins 5 fruits et légumes par jour et par personne, avoir des sources de poissons, de céréales, etc., ça coûte pour une famille de 4 personnes 18 euros par jour. C'est-à-dire que présenter ça comme une formule anti-inflation, donc qui permettrait de rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs,
Je vous suive bien, Nadia Ziane. 18 euros par jour en mangeant équilibré pour une famille de
4 personnes.
Ouais, donc là,
et en mangeant des fruits, des légumes,
c'est défiant toute concurrence, là, pour le coup.
C'est même pas défiant. Alors, effectivement, là, vous n'avez pas des poissons et des viandes très nobles. Néanmoins, vous avez de quoi respecter ce fameux PNNS. Donc, encore une fois, et j'insiste là-dessus, avoir aujourd'hui des enfants qui souffrent de diabète à partir de 30 ans parce qu'ils ont une consommation excessive de ces produits, c'est ça qui nous pose souci. Donc, encore une fois, c'est pas un menu anti-inflation. Ça, c'est faux, clairement. Et ensuite, c'est une question de récurrence. On n'est pas en train de dire il faut jamais aller fréquenter ces fat food, mais quotidiennement, comme j'ai pu l'entendre de la part du directeur de magasin là, c'est pas bien. C'est pas bien de dire ça aux consommateurs parce que c'est dangereux pour leur santé. Et enfin, moi, ce que j'attends de leur part, parce que soyons un peu positifs, à quand un menu conforme PNNS dans ces fast-foods. Mettez-nous des fruits, des légumes, des légumineuses. C'est possible. Faites marcher votre créativité, cher directeur de fast-food, et proposez des menus équilibré, conforme à nos besoins.
Il y en a.
Mais est-ce que ça marche?
Ouais, mais ouais, non, c'est menus, ouais. Bah, McDonald's, ils ont développé le bar à salade. Donc,
c'est dommage, j'ai pas les chiffres.
Il y en a à McDonald's.
Tu peux regarder combien ils vendent de salades, de menus salades par rapport à tous leurs autres menus chez McDo chaque année.
Et alors, excusez-moi, vous savez ce que je prends moi quand je vais au restaurant?
Non.
Même dans des restaurants UP, bah je prends des burgers. Voilà, des burgers frites, il y en a partout.
Moi je supporte pas.
Voilà. Et donc
quand
si,
je vois un restaurant
si
maintenant avec au menu
burgers,
moi
je prends. C'est quand même pas de la faute de McDonald's, de Quick et de Burger King. C'est incroyable le comportement des consommateurs.
Je vous ai sûrement pas dit le contraire. Je vous dis que c'est un problème de récurrence. Nous, ce qui nous pose problème, d'une part, c'est le présenter comme un menu anti-inflation parce que c'est faux. On fait de l'éducation budgétaire. Dire aujourd'hui que ça coûte moins cher, laisser penser que ça coûte moins cher d'aller manger au McDo chez Burger King ou chez Quick que de préparer soi-même son repas, c'est faux. Voilà.
Mais c'est pas du tout ce qui est dit.
La campagne de promotion, c'est du marketing, c'est du plaisir d'aller au McDo.
Excusez-moi, mais
vas-y Juliette.
C'est du plaisir d'aller au McDo pour les gens. Les gens ils mangent encore plus mal chez eux.
On parle du menu à 5 euros.
Les gens mangent encore plus mal chez eux qu'au McDo. Ils mangent du surgelé, ils mangent que du pain de mie dégoûtant, plein de sucre. C'est arrêté. Les gens, ils vont au McDonald's pour se faire plaisir en famille. Voilà, et ils sont contents d'avoir un menu un peu moins cher que d'habitude.
Alfred,
on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas y aller. On dit, le problème, c'est la récurrence. C'est-à-dire qu'y aller une fois de temps en temps, moi je suis d'accord avec vous, l'aspect convivial. Maintenant, encore une fois, et j'insiste sur ce point, la terminologie est fausse. On ne peut pas parler d'un menu anti-inflation.
Justement, Nadia Ziane, j'ai demandé à Alfred pendant qu'on est en train de discuter de regarder si on avait des chiffres sur la fréquentation moyenne d'un McDo par un client.
20% des Français y vont chaque semaine et ça concerne même un enfant sur dix se rend dans un fast-food chaque semaine.
Mais comment ça, c'est effrayant? Vous allez combien de fois au restaurant par semaine, vous? Mais c'est fou ça. C'est fou. Le problème, c'est la façon de s'alimenter. Le problème, c'est qu'on mange trop gras. C'est pas McDo, c'est pas de la faute de McDo.
Enfin, c'est McDo promeut ça en disant c'est un menu sur 10 qui va.
C'est incroyable.
On te montre par les chiffres que c'est mauvais.
Si
un nutritionniste ou un médecin nous écoute, moi je ne sais pas, mais il peut nous appeler au 3216. Mais j'imagine que lorsqu'on est mineur, un enfant, on parle d'enfant, aller une fois par semaine, 1 sur 10, dans un restaurant rapide, enfin dans ce type d'enseigne, je pense que c'est pas bon du tout.
Ça se paiera plus tard, c'est des impôts qu'ils paieront plus tard. Le problème,
c'est comment s'alimentent les gens. C'est ça, d'accord? À la maison, les gens s'alimentent extrêmement mal. Le problème, c'est pas est-ce que McDo fait un menu à 5 euros pour permettre à des gens d'aller à McDo en famille parce que ça coûte extrêmement cher quand on a 3 enfants.
Nadia Ziane était avec nous. Merci à elle d'avoir été avec nous, directrice du département consommation de famille rurale. On retourne au 3216. On va retrouver Greg. Bonjour Greg.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
Bonjour.
Débat extrêmement passionnel, vous l'entendez Greg. Vous nous appelez d'où?
Salon de Provence.
Salon de Provence. Vous faites quoi dans la vie Greg?
Je suis dans le bâtiment.
D'accord. Vous êtes client de la restauration rapide?
Client, j'y vais de temps en temps. J'y suis allé jeune, mais bon... Avec l'âge, après, on y va de moins en moins parce qu'on apprécie la bonne bouffe, mais j'ai été client, j'y suis encore un petit peu.
Ce menu anti-inflation à 5 euros, est-ce que ça vous trouvez ça bien ou pas bien?
Sur le principe, je trouve ça bien parce que c'est essentiellement les jeunes qui vont être impliqués à l'acheter. Et vu l'inflation, vu les moyens qu'ils ont pour manger peut-être entre midi et deux et pendant les week-ends, ça peut être intéressant. Après, c'est toujours pareil, il faut peut-être pas en abuser.
Ah oui, le problème, c'est qu'avec cet appel de. Juliette, j'entends ce qu'elle dit, le client est roi, mais avec cet appel de 5 euros, là, moi, j'ai 14 ans, 15 ans, 16 ans, pouvoir manger à 5 euros, je trouve pas ça ailleurs. Hein.
Évidemment.
Aujourd'hui, même les kebabs, c'est plus cher, puisque voilà.
Non.
Donc, il y a
l'heure de la journée, c'est ça qu'il faut.
Et c'est ça, Greg, parce qu'il y a ce. Oui, c'est raison de préciser, Alfred. Oui. C'est vrai que c'est à toute heure de la journée. Et est-ce qu'il n'y a pas ce danger, quand même, de voir de plus en plus de jeunes. C'est pas un danger que d'aller au McDo de temps en temps, Juliette.
Évidemment.
Mais y aller de plus en plus souvent et y aller très souvent, voire tout le temps. Est-ce qu'il y a pas un danger,
Greg? Je fais pas la promotion d'aller manger à McDo. Attention, c'est pas du tout le but. Excusez-moi, mais c'est quand même vous
Greg.
Qui avez.
Après, oui, moi, je prenais comme exemple, oui, c'est sûr que de manger tous les jours McDo, que ce soit à 5 euros ou à 30 euros, je pense que c'est pas bon non plus. Je donnais, moi, l'exemple à, donc, à la personne qui m'a appelé. Le gars qui a peut-être les moyens, ou même, oui, de très bons moyens pour manger à midi ou le soir, s'il mange beaucoup de côte de bœuf ou de foie gras ou de, des repas qui sont très, très forts en calories, il sera peut-être pas bon.
Ah, mais lui, il est riche, donc ça va, il a le droit.
Ouais, mais s'il est riche, faudra peut-être
le soigner quand il aura 50 ans et
quand il aura des problèmes de santé, il faudra le soigner aussi.
Bah oui, tout à fait.
Au même titre,
on mange du foie gras tous les jours.
Le restaurant à truffé foie gras, on propose pas de taxes, hein, ça c'est incroyable. Mais bon, mais ils sont riches, donc.
Voilà, je pense que dans tout domaine, quand on abuse, c'est pas bon. Après, le tout, c'est de pas manger tous les jours McDo, mais c'est vrai que les jeunes, avec les moyens qu'ils ont, c'est pas évident. Donc,
encore une fois, avec un appel d'offres à 5 euros.
Mais c'est ça.
Merci Greg d'avoir été avec nous, Greg, qui nous appelait depuis Salon de Provence. Cyril est avec nous. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On revient en région parisienne, on est en l'Essonne, c'est ça?
C'est bien ça, oui.
Courcouronne.
C'est bien ça.
Vous faites quoi dans la vie, Cyril?
Je suis ingénieur dans l'aéronautique.
Client de la restauration rapide?
Gros client, oui, assez régulièrement.
C'est-à-dire? Allez-y, n'ayez pas peur de parler.
Allez, je dois y aller 2-3 fois par semaine.
Ah oui,
facilement. Et j'étais pas du tout d'accord avec Julien de Briens. Sur le fait qu'on soit totalement libre et que ça n'a pas de conséquences, etc. Moi, j'ai pris l'exemple d'un paquet de cigarettes. Quand j'achète un paquet de cigarettes, je paye d'importantes taxes dessus et ça me pose pas de problème en tant que citoyen parce que je sais que la consommation de ce paquet de cigarettes aura un coût pour la société plus tard. Et alors, si on prend l'exemple de ce paquet de cigarettes, pourquoi on n'applique pas la même chose à la malbouffe? Parce que c'est un coût pour la société. C'était ça ma question et c'était ça mon point de vue. Donc j'étais plutôt d'accord avec la ligne de Thierry Moreau, finalement.
Oui, tout à fait. Non, mais je comprends tout à fait. En fait, moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par plaisir qui peut-être se payeront par la société plus tard. Par exemple, moi, quand je vais au ski, eh ben, j'ai toutes les chances de me casser une jambe.
Bien sûr.
Eh ben, c'est la société qui va payer. Oui. Donc, si on part sur ce principe, on taxe et on arrête toutes les choses qu'on fait par plaisir et qui plus tard se répercutent sur les impôts.
Mais en fait, le contrat, c'est pas ça.
Le contrat, justement, c'est de la solidarité. C'est-à-dire que on a décidé qu'on avait un modèle de carte vitale, où on payait pour tout le monde.
Oui.
Et donc, on paye pour tout le monde, c'est comme ça, et on va pas aller taxer les petits plaisirs des uns et des autres, parce que toi, t'aimes un peu plus la cigarette, puis toi, tu bois un verre de pinard de plus que lui, donc tu coûtes plus à la société. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, et c'est Cyril. Pas dans ce monde que j'ai envie de vivre.
Cyril. Donc, on reste dans ce modèle aujourd'hui, actuellement, où tout le monde est responsabilité vis-à-vis de la société, et donc c'est à celui qui va vendre le produit le moins cher, indépendamment de la qualité de ce produit.
Bravo Cyril.
Oui, moi je laisse totale liberté aux entreprises de gérer comme elles veulent leur menu, leur recette, leur prix.
Et vous pensez qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre cette totale liberté et les problèmes sanitaires qu'on a aujourd'hui en France?
Non, il n'y a pas de corrélation entre la liberté et la mort. Non,
il n'y a pas de corrélation entre la malbouffe et la maladie.
Il n'y a pas de corrélation entre la liberté. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien. Il n'y a pas de corrélation jamais entre la liberté et la mort et les arrêts cardiovasculaires et voilà.
Les abus, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre la liberté et les abus?
Exactement.
Et des abus de liberté?
Oui, il n'y a pas de corrélation.
Tu ne sens pas victime d'opérations marketing et mercantiles de la part de McDo?
Non, pas du tout. J'ai un solide caractère.
Tu dis que c'est un coup de pouvoir d'achat?
Non, je ne me sens pas victime du tout.
Allez, on ne vous mettra pas d'accord, on l'a compris. Merci beaucoup à Cyril d'avoir été avec nous. Cyril qui nous appelait depuis Courcouronne. Dans l'Essonne, on vous a posé la question, menu anti-inflation à 5 euros chez Quick, chez McDo, Burger King. Bonne ou mauvaise chose?
Vous répondez bonne idée à 65%, mauvaise idée à 35%. Je finis avec deux messages. D'abord, Stéphane qui dit « Je trouve ça génial, au moins les familles modestes peuvent encore faire plaisir à leurs enfants. » Et puis DJ qui nous dit « Si ces enseignes sont capables de faire des prix comme ça, cela laisse supposer la qualité des produits proposés. »
Merci Alfred. Alfred, on est quel jour?
C'est une bonne question. Le 12 avril.
Je pensais pas te poser une colle. Ouais, mais quel jour de la semaine?
On est vendredi.
On est vendredi. Vendredi, c'est parce qu'on est Estelle Midi. Il y a les notaires. Tu le sais.
Ils arrivent.
Oui, pour nous répondre.
Ils sont là.
À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes vendredi. Et le vendredi, ce sont les notaires qui vous répondent.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Et maître Sarah Hollard est avec nous. Bonjour maître.
Bonjour.
Notaire à Paris. On va répondre à la question de Christelle. Elle nous a écrit, Christelle, elle a 38 ans. Je vous lis son message. Bonjour. J'avais pour projet d'acheter un appartement près de Toulouse. J'ai fait un prêt bancaire qui a été accepté. Le propriétaire, c'est une chose qui arrive, le propriétaire vient de décéder. Les démarches ont donc été stoppées net, on imagine. Que va-t-il se passer pour moi? elle doit commencer à rembourser son emprunt le mois prochain, sans pour autant, puisque tout est bloqué, vivre dans son nouvel appartement. Alors, c'est des situations bon, qui n'arrivent pas tous les jours, mais ça peut, voilà,
malheureusement, ça arrive.
Ça peut arriver à n'importe qui. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est que si on est dans une opération classique entre particuliers, le principe, quand on signe une promesse ou un compromis de vente, c'est que le vendeur est définitivement engagé, ce qui signifie qu'en cas de décès, ce sont ses héritiers qui vont prendre le relais de l'engagement. Ça veut dire que pour cette personne, le contrat ne tombe pas. Christelle peut se rassurer, l'appartement ou la maison n'est pas perdu. Simplement, ça va être transmis aux héritiers de son vendeur, ce qui signifie exactement que selon qui sont les héritiers, si on les connaît, s'il faut faire des recherches, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais l'opération peut se poursuivre. En revanche, la question du prêt immobilier qui commence à être remboursé, c'est un non-sujet, puisque par principe, l'opération qui n'est pas signée ne peut pas générer le remboursement d'un prêt, puisqu'on prévient la banque qu'on a signé, et donc c'est à ce moment-là que le prêt commence à être remboursé. Donc elle devra simplement dire à sa banque que finalement le prêt ne peut pas encore être débloqué. Mm-hmm. Si les fonds ont été débloqués, il faut les retourner à la banque qui les gardera au chaud jusqu'à ce que l'opération se décante. Exactement, occupés, exactement. Mm. La seule particularité, c'est si la promesse qui avait été signée ou le compromis portait sur un viager. Là, dans ce cas-là, comme on fait de la survie du vendeur une condition nécessaire, alors dans ce cas-là, l'opération tomberait. Mais sur une opération classique, particulier, c'est les héritiers qui vont prendre le relais dans la vente.
Donc, très clairement, là, ça ne change rien au niveau de la vente. La promesse de vente a été signée. Mmh. Puisque sinon les fonds n'auraient pas été débloqués à la vente. Donc ça veut dire que l'appartement, il est à elle.
Alors il n'est pas à elle tant qu'elle n'a pas signé la vente.
Oui.
En revanche, elle est toujours engagée dans cette opération et les héritiers le sont aussi. La seule difficulté, c'est qu'il va falloir ouvrir la succession. Donc ça veut dire connaître
combien de
les
temps,
héritiers.
Ça, très clairement, très concrètement.
Le traitement d'une succession. Ouais. Le délai classique pour régler une succession normale, déposer le paiement des droits des impôts, c'est 6 mois. Pour autant, on n'est pas obligé d'aller au bout du traitement du dossier de succession pour signer cette vente, puisqu'en fait, pour réaliser la vente, il faudra simplement qu'on ait la certitude de connaître les héritiers, de signer l'acte de notoriété qui est le premier acte, et puis de régler la partie uniquement sur le bien immobilier.
Une question qui n'est pas inclue dans celle que nous a posée Christelle, mais vous allez pouvoir répondre. J'imagine que vous êtes notaire, donc vous avez la réponse à tout. Si elle était locataire, elle a donné son préavis en se disant bah, l'appartement je l'ai dans un mois. Qu'est-ce qui se passe pour elle ?
La difficulté, c'est que son préavis étant donné, il faut réussir à entrer en contact avec son bailleur pour lui expliquer, si on est sur une personne, je lui souhaite, qui n'a pas déjà re-signé un nouveau bail, parce qu'il peut y avoir aussi cette difficulté. Sinon, malheureusement, elle est obligée de partir dans une nouvelle location, ou si le bien est complètement vide, même si ce n'est pas quelque chose qu'on conseille côté notaire, il pourrait être possible d'envisager de signer un bail avec les héritiers, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel on n'est pas toujours favorable au notaire, puisqu'on a quand même l'aléa de retrouver les héritiers, de signer les délais qui peuvent commencer à courir.
Et si jamais elle était propriétaire ? Et imaginons qu'elle est vendue. Bah après, j'imagine des choses, mais ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
Qu'elle est vendue pile poil son bien au moment de signer nouveau et elle se disait bah voilà, je vais quitter mon appartement que j'ai. Il est vendu, donc je vais le quitter dans 15 jours. On s'est mis d'accord avec le vendeur.
Et c'est des situations qui arrivent, c'est pas du tout un scénario imaginaire, ça se produit. Et dans ce cas-là, c'est pareil, ça veut dire que conventionnellement, il faut réussir à trouver soit avec les futurs acquéreurs de sa propre maison un accord pour rester un peu plus longtemps dans la maison, décaler exactement, ou trouver un accord d'un côté ou de l'autre pour se reloger.
Bon, c'est très clair, j'espère qu'on a bien répondu à la question de Christelle. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Maître Sarah Ollard, dans un instant, comme tous les jours à cette heure-là sur RMC, Alfred Orange, il est là, et ce seront les immanquables. Alfred, on parlera de quoi notamment ?
On parlera de la polémique du jour avec des uniformes livrés dans les écoles qui ne sont pas produits en Union Européenne.
Très bien, c'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. Et RMC Story, à tout de suite. Merci.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Dans un instant, les immanquables avec Alfred Orange. Mais avant cela, Alfred, on l'avait dit, on l'avait promis, on joue et on a un gagnant. Qui est là ?
Oui, bon, c'est Laurent.
Bonjour Laurent, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je viens de le dire, Laurent, vous nous appelez depuis l'Oise, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Compiègne. Donc pas très loin de Paris. Vous faites quoi dans la vie, Laurent ?
Responsable comptable.
Si vous êtes avec nous à cette heure-là, à l'antenne sur RMC, c'est que vous avez gagné, Laurent.
Oui.
Vous avez gagné vos places pour les JO.
Bah, c'est super, parfait. Que demande le peuple ?
Ce qu'on appelle de la joie contenue. Laurent, vous aviez l'intention d'aller participer, mais d'aller assister aux JO ?
Oui, certainement, et nous y rendre, surtout pour l'équitation. Donc,
Ah, bon, vous n'aviez pas de place?
Non, pas encore.
Bon,
c'est fait.
Dans le choix... Ouais, bah attention, non.
Alors,
on a des choix quand même.
Voilà, oui. Laurent, il va falloir choisir. RMC vous laisse le choix. Soit vous remportez deux places pour les finales de gymnastique artistique le 1er août avec notamment...
Finale.
Avec notamment Simone Biles, l'américaine, hein, qui est une des plus grandes athlètes de tous les temps, quatre fois champion olympique.
C'est du spectacle, ça.
Spectacle à venir incroyable. Soit deux places pour les demi-finales de basketball messieurs le 8 août à Paris aussi. Avec la France, les États-Unis vraisemblablement.
Laurent,
ça va être un choix compliqué parce que j'ai une fille basketteuse et une fille gymnaste.
C'est terrible. Bon, je vous demande pas de réponse, hein, parce que ça serait terrible. Si. Bon,
donc,
non. Réfléchissez. Puis
je vais prendre la gymnastique.
Allez, la gymnastique.
Très bon choix.
Non, et puis la gymnastique.
Moi, j'aurais choisi ça.
Ouais, je pense que ça va être un beau spectacle. Et c'est la finale, hein. La finale. On est très contents pour vous.
Merci.
Belle journée,
Laurent.
Du côté de Compiègne.
Merci beaucoup.
Allez, les immanquables, tout de suite avec Alfred.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables, on commence avec la résolution du jour, Alfred.
Oui, elle vient du gouvernement qui veut mettre fin au logement social à vie. Cette mesure sera inscrite dans le projet de loi logement présenté le mois prochain. Le gouvernement souhaite que les bailleurs sociaux réexaminent régulièrement la situation financière de leurs locataires. D'après le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, plus de 8% des locataires actuels de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui. Et en attendant, près de 2 millions de personnes attendent un logement social en France, une première depuis 20 ans.
Juliette Briens, la fin du HLM à vie, c'est logique?
Mais c'est tout à fait logique. Écoutez, moi, je ne savais même pas que ce n'était pas déjà le cas et qu'il n'y avait pas des contrôles pour voir si la personne présente dans le HLM est encore...
susceptible de bénéficier.
Répond encore aux critères, en tout cas, d'obtention d'un HLM, c'est tout à fait normal. Surtout avec la crise du logement qu'on traverse en ce moment, et les chiffres ont été très bien rappelés sur l'attente pour des familles, de nombreuses familles françaises, pour des HLM qui attendent depuis des années. Donc c'est totalement normal. Je vous rappelle que c'était, je me rappelle plus quel média qui avait sorti qu'il y avait notamment une députée LFI qui était encore dans un qui avait encore accès à son HLM, c'était Madame Rachel Cliquet. Et c'est un scandale. On peut pas expliquer ça aux Français qui attendent.
Yael.
Ah oui, c'est je pense que c'est même urgent à prendre comme mesure. Et tout à fait scandaleux que des personnes qui répondent plus aux critères, qui sont plus éligibles pour avoir un logement social, continuent d'y rester. Le chiffre de 8% qui a été rappelé est énorme, alors que les demandes aujourd'hui n'ont jamais été aussi hautes. Donc, ouais, c'est une très très bonne mesure.
Oui, c'est une saine gestion de la solidarité nationale. Parce qu'en fait, la solidarité nationale, elle est là pour vous aider à un moment où vous n'avez pas de quoi vous loger. Une fois que vous avez ensuite un métier, que vous grandissez, que vous avez votre salaire, ce qui est souvent le cas, augmente au cours de la vie, il est normal qu'ensuite vous cédiez votre place à des gens qui ont besoin de ces logements sociaux. C'est d'une logique inébranlable.
La polémique du jour, Alfred.
Elle nous vient de la provenance des uniformes livrés à l'armée, la police ou encore aux écoles, puisque plusieurs élus ont découvert que tous ces vêtements payés avec des fonds publics sont fabriqués en dehors de l'Union européenne, souvent en Chine ou au Vietnam. Le dilemme concerne notamment les uniformes à l'école en test dans plusieurs villes, dont Béziers, qui paye des uniformes 200 euros pièce. La question, c'est donc de miser sur des vêtements accessibles, qu'aucune famille ne soit discriminée, même si c'est au détriment d'une fabrication européenne et française.
Juliette ?
Ah, c'est fou. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Je ne comprends même pas que ce soit possible. Comment c'est possible ? Comment on peut ne pas privilégier, évidemment, des vêtements en provenance de France ? Je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire.
Parce qu'on n'a plus d'industrie ?
Ah, alors je pense...
La liberté.
Alors, si on vient m'expliquer...
La liberté.
Rien à voir.
Attention, et de France ou...
On parle d'argent public. Hein.
De France ou en tout cas d'un pays membre de l'Union européenne.
Alors, si on m'explique évidemment qu'il n'y a pas d'alternative plausible en France, on peut discuter effectivement. Mais c'est quand même incroyable de se dire que les uniformes de l'armée ne sont pas confectionnés en France. Enfin, moi, je vois quelque chose.
Il y avait Lucas Levallois-Perret, tu sais. Non, c'est pas Levallois-Perret. Je sais plus. C'est Béziers. Enfin, c'est une commune qui est candidate à tester les uniformes à l'école. et dont on a découvert que les uniformes n'étaient pas faits en France, ils étaient au Portugal pour le coup. Mais la commune s'était justifiée en disant qu'ils avaient eu un délai très court pour commander ces uniformes et qu'il n'y avait aucune entreprise française qui était capable de livrer ces uniformes en un temps si court, donc ils ont commandé au Portugal. Non, je crois que c'était hors Union Européenne aussi.
En l'absence de
J'ai envie de poser la question à Juliette. Entre le patriotisme vestimentaire et la bonne gestion des deniers publics, tu préfères quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu préfères? Qu'on paye 50% plus cher quelque chose qui sera fabriqué en France? Ou est-ce qu'on laisse l'Organisation mondiale du commerce laisser tout ça et donc permettre, parce que je présume que c'est des appels d'offres, hein, ça doit être extrêmement réglementé, et donc des entreprises basées à l'extérieur qui sont évidemment mieux disantes en termes financiers peuvent décrocher ces marchés. Donc
moi je suis pour un protectionnisme, c'est-à-dire que je refuse que l'État français privilégie d'autres marchés plutôt que le sien. Donc évidemment c'est exactement la même chose pour les agriculteurs, pas de concurrence déloyale, et je préfère que l'État français évidemment consomme français, achète français. Ça me paraît totalement logique.
Miel.
Moi, pour moi, c'est un énorme loupé. Hein. Pour moi, c'est totalement incompréhensible que des uniformes pour des organismes publics, a fortiori pour les armées, soient produits à l'extérieur même de la France. Hein. Je parle même pas de l'Union européenne.
Hein. Fois, je sais même
pour
pas
moi,
si
c'est mais c'est pas possible. Il y a pas d'usine de vêtements, de textiles en France.
Il y en a évidemment, mais il y en a très peu.
Alors, on nous dit qu'il faut produire, qu'il faut acheter français.
Il y en aura plus si on leur propose de faire tous les uniformes de l'armée. Peut-être qu'ils vont mettre les moyens. Non, mais c'est totalement logique.
Mais on est en train de redécouvrir aujourd'hui en France qu'on a tué notre industrie. Regarde ce qui se passe avec l'armement.
Ça, c'est sûr.
On avait des manufactures d'armes en France, notamment la manufacture d'armes de Saint-Étienne, celle de Tulle, entre autres. Terminé, on a préféré produire à l'étranger. Aujourd'hui, on le sait avec la guerre en Ukraine. Hier, Emmanuel Macron a inauguré une usine de fabrication de poudre à Bergerac. Qu'il y a une volonté politique qui est dictée par la géopolitique, mais on a tué notre industrie, tout simplement.
Ouais.
Allez, le carton du jour.
Oui, les traditions taurines n'ont jamais réuni autant de monde à l'heure où la saison des courses camarguaises bat son plein dans l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Le nombre de spectateurs est en forte hausse, 100 000 spectateurs de plus depuis 2019 d'après la fédération du secteur, et ce grâce notamment au succès de la carte jeune, un pass qui permet aux adolescents de venir voir les courses camarguaises pour 2 euros, un moyen économique donc de transmettre cette passion aux nouvelles générations.
Précisons, Yael, que pour les courses taurines, il n'y a pas de mise à mort du taureau.
C'est
hein, mais
c'était une course.
Oui, mais enfin, on les maltraite quand même. Il y a de la maltraitance animale tout de même. Et puis, il y a même parfois même des morts dans le public. C'est aussi dangereux. Ah non, pour moi, c'est insupportable de voir ça. Insupportable. Je comprends pas que ça puisse être encore sacralisé. Je conçois que ça fasse partie de traditions locales, de certains territoires. Mais à un moment donné, il faut être radical et arrêter des coutumes qui sont cruelles, cruelles pour les animaux.
Mais comment tu expliques cet engouement? J'ai l'impression que plus on tape sur les courses taurines, sur la corrida, plus il y a de monde. Je sais pas.
Peut-être que c'est un rapport avec l'augmentation de cette ultra-violence sociétale, le goût du sang, je sais pas. J'ai pas analysé ce phénomène, je ne sais pas.
Thierry, faut vraiment distinguer les corridas de la course taurine. La corrida, on en a parlé ici. Moi, je suis totalement contre parce que c'est absolument atroce et c'est de la torture. La course taurine. Je veux bien qu'on rentre dans le débat du bien-être animal, etc., un peu ergoté, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins dangereux et nuisible à l'animal que la corrida. Donc, s'il y a une tradition de course taurine et si ça attire du monde, moi, j'y vois pas beaucoup de choses à redire.
Juliette.
Bon, sur la course taurine, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Sur la corrida. Mon cœur a balance, je ne suis absolument pas pour l'interdiction de la corrida. À titre personnel, je n'irai pas voir une corrida, je ne pense pas. Ou alors j'irai peut-être un jour juste pour au moins me faire mon propre avis sur ce que je vois. Je pense que c'est quand même bien, mais je suis pas une fan effectivement de ce genre de sport et de la mise à mort d'un animal, ça m'attire pas. En revanche, pour moi, c'était pas du tout une priorité d'aller interdire cette tradition effectivement ancestrale qui réunit beaucoup de monde et qui n'est pas que portée sur la violence, quoi. Je veux dire, quand on regarde, moi j'ai vu quand même des images du Gorilla, il y a aussi beaucoup de beauté, il y a aussi beaucoup d'élégance, il y a aussi beaucoup de traditions, de voilà, qui s'inscrivent dans cette tradition là. Ce n'est pas que l'ultra violence et la mise à mort de l'animal. Donc voilà.
Les livreurs du jour, Alfred.
Oui, et là on va parler ni d'Uber Eats ni de Deliveroo, mais bien de La Poste qui va intensifier son activité de livraison de repas à domicile d'ici 10 ans. Ce sera d'ailleurs la première fonction des facteurs, c'est ce que prédit le groupe, qui doit donc se réinventer parce qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires issu de la livraison de courrier ne représente plus que 15%. La Poste veut donc mettre à contribution sa flotte impressionnante de 65 000 facteurs pour la distribution de repas à domicile. Sachez qu'en 2023, le groupe Postal a déjà livré 5 millions de repas.
Bon, bah, reconversion d'une entreprise.
C'est formidable, parce que je pense qu'il faut bien comprendre que pour certaines personnes isolées ou âgées, le contact avec le facteur, c'est la seule personne vivante qu'il voit dans la journée. Donc que cette personne soit en plus là, en offrant d'autres services que la livraison du courrier, qui effectivement est en baisse, parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens envoient de courrier par la poste, je trouve ça très très bien. Et alors évidemment, ça va nécessiter des formations, donc il faudra faire attention à ce que ça soit bien fait, mais c'est une formidable
formidable opportunité. J'imagine le facteur, comme on disait avant, il arrive avec sa camionnette, qui sera adapté, qui est adapté pour, forcément.
Oui, c'est ça. Il faudra adapter pour. Il faut qu'il y ait une formation. D'ailleurs, qu'ils ont, parce que on voit bien que les facteurs, ils sont toujours très en empathie avec les gens chez qui ils vont. Et s'il y a une vieille dame, ils aident à faire des choses. Enfin, moi, les facteurs que j'ai eu chez moi, ils ont toujours été formidables.
J'ai pas compris comment ça marche. Ils viennent d'où, les repas?
Ce sera des sociétés qui vont livrer les repas à la poste, et la poste va les livrer.
C'est un service d'intermédiaire.
D'intermédiaire. De livreur.
Oui, ça sera payant, mais
Uber Eats national, quoi.
Non, mais ça sera payé soit par l'assurance maladie, si c'est de la livraison à une personne âgée ou handicapée, par exemple.
D'accord.
Tu vois?
Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas.
C'est un service d'aide à la personne.
Moi, je suis très, très attachée aux facteurs et aux factrices. Je trouve que c'est un lien humain qui est absolument essentiel pour beaucoup, que ce soit pour les personnes isolées ou les personnes âgées. Et il est vrai que ils ont moins de boulot. Donc s'ils peuvent bénéficier d'une reconversion, je dis ça me semble être une bonne idée.
Ça va caser 65 000.
Je sais pas.
Enfin, ça me paraît quand même énorme.
La Poste a un maillage territorial tel que ce maillage peut être mis à disposition. On va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir besoin, ne pouvant plus se déplacer parce qu'on va avoir de plus en plus de centenaires et de personnes âgées.
C'est un marché d'avenir.
C'est un marché d'avenir. Donc si on forme et si c'est pris en charge en partie par la collectivité, comme la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, c'est formidable d'utiliser ce maillage de la Poste. C'est génial.
Je pense qu'on a fait le tour.
Facteur,
évidemment. Évidemment.
Allez, bravo, facteur.
Merci à vous d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Tout de suite, vous le savez, ce qui suit, c'est le Super Moscato Show. Il arrive, il est là, il s'installe. Il s'appelle Vincent Moscato. Salut Vincent, comment vas-tu?
Impeccable, ça va bien?
Ça va.
Alors, le Stade Rochelet.
Oui.
Vous avez aimé La Rochelle, l'île de Ré?
Bien sûr.
Les balades en vélo. Le pull croisé, pim. À la Lionel Jospin.
C'est la glace de.
Oui. À la glace à 15 balles. Voilà. Le Stade Rochelet peut-il renouveler l'exploit? C'est-à-dire, ils vont à Leicester. Ils étaient en Afrique du Sud la semaine dernière. Là, ils vont à Leicester en Irlande, grosse province sud-africaine avec la première ligne de l'équipe d'Irlande.
Un gros bilan carbone.
Ça va envoyer du steak. Ah ouais, là, du bilan carbone.
Alors, on y va.
Ça y va, là. Avec Donnarumma, peut-on gagner la Ligue des Champions? Donnarumma, c'est le goal. Thierry Moreau, je vous pose cette question.
Oui, mais vous avez raison.
Monsieur Moreau.
Je vais vous écouter pour apprendre.
Mais je ne sais pas pourquoi. L'OM, est-ce le début de la résilience? L'OM ne fait pas un mauvais match hier. Une deuxième mi-temps à Benfica, tu vois, ils ont. Ouais, c'était pas quand même.
Enfin, une défaite.
Ça cassait pas trois pattes à un canard. Bon, Aubameyang, une réussite maximale hier soir. Ça sera notre cri de cœur. Simple.
Le cri de cœur.
Simple, après un week-end. On va faire 3 heures à fond les gamelles, le dard en avant. C'est comme des frelons, et en avant Simone.
S'il reste un peu de temps, de toute façon, on peut faire.
Ne vous inquiétez pas, on parlera du tournoi. On débriefera le tournoi de 2004.
Mais oui.
Voilà, le tournoi de destination. 2004. On parlera. Peut-être que ce soir, si vous êtes sage, on parlera de l'Angleterre ou du pays de Galles. C'est pas encore. Ça peut varier à tout moment.
Et sinon, la pelouse.
La pelouse, bien entendu, toujours le même sujet. Est-ce que les engrais font repousser la pelouse synthétique?
Voilà.
Ça vous va? Ça vous va, le film que vous avez fait là?
Super,
c'est là. Mais on continue, restez là un peu.
Gros sommaire.
Oui,
formidable.
Allez Vincent, ciao. Merci beaucoup. Le Super Moscato Show, c'est dans un instant sur RMC. Nous, on se retrouve avec Estelle Denis.
Oui.
Lundi, à partir de midi sur RMC et RMC Story. Bon week-end à tous.
Bon week-end.